Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. « Or je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et de n'avoir point de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée et dans un même sentiment. » Nous avons souligné dans notre première étude de cet épître qu'il y avait quelques problèmes à Corinthe. Et nous avons remarqué également que l'église de Corinthe était une bonne église. Les problèmes de Corinthe peuvent être vraiment exagérés, et parfois c'est le cas. Beaucoup de ces problèmes étaient graves, mais ils affectaient une minorité de personnes. Nous savons que dans l'ensemble, l'église était bonne, et zélé, parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit, et il recommande l'église de Corinthe fortement. Ainsi, nous devons être équilibrés dans notre analyse. Cependant, il y avait des problèmes. Et le premier problème qui est mentionné ici, c'est le problème de la division, des clans dans l'église. Dans l'église, ceux qui suivent différents prédicateurs. Pourquoi est-ce que c'est le premier problème qui est mentionné? Est-ce le plus grave? Après tout, vous pourriez penser que l'inceste de 1 Corinthiens 5 était plus grave que la division dans l'Église. Peut-être que vous pensez que certains autres problèmes de l'Église, les problèmes doctrinaux, en particulier concernant la résurrection, étaient plus fondamentaux et graves que les divisions dans l'Église de Corinthe. Mais l'apôtre Paul commence avec ceci. Les divisions. Cet esprit de division dans l'Église, est-ce vraiment le plus grand des problèmes qu'ils ont? Dans beaucoup d'aspects, oui, parce que ceci implique plusieurs personnes. J'en arrive au verset 11, car « Mes frères, j'ai été informé par ceux de chez Chloé qu'il y a des contestations entre vous. » C'est un terme puissant. Et au verset 10, « Ceci semble être répandu, comme si la plupart des gens était dans l'un des groupes ou dans l'autre. Ceci affecte toute l'Église, toute l'Assemblée, et discrédite toute l'Église. C'est la racine de beaucoup d'autres problèmes, bien sûr. Et alors que c'est le cas que l'Église est divisée, ils ne peuvent pas faire face aux autres problèmes. Ceci ôte l'amour dans l'Assemblée. Le premier commandement de Christ, en particulier pour ses enfants, c'est qu'ils s'aiment l'un l'autre. Ceci ôte l'autorité de Christ. Différentes personnes veulent promouvoir comme prédicateur principal cette personne ou cette autre. Et ceci ôte l'autorité seule de Christ dans l'Église. Il y a une seule autorité dans l'Église, ce doit être Christ. Aucun prédicateur. Et l'apôtre Paul va dire que ceci, ce péché, éclipse la puissance de la croix de Christ. Et nous allons expliquer pourquoi. Alors que nous allons considérer ce passage. Ainsi, c'est un grand problème. L'apôtre Paul dit « Je vous prie, frère, c'est un commandement de Dieu. » Par l'apôtre Paul inspiré, c'est un commandement de Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 10, qui veut dire que l'apôtre Paul est conscient en particulier que c'est Christ le Sauveur qui lui parle dans ce commandement, personne d'autre. C'est un commandement aux Corinthiens et pour chacun d'entre nous, de la part de Christ. Mais ce terme « je vous prie, je vous supplie » ne veut pas ôter l'autorité d'un commandement, mais ça rend ce commandement plus fort. Il les implore, parce que, alors que c'est un commandement, il a un cœur pour eux. Et ce sont des gens sincères, c'est une bonne église dans son ensemble. Et ceci va ruiner l'église s'il continue ainsi. Ainsi, c'est un commandement. Et il plaide. Mais je vous prie, ceci ne veut pas dire qu'il y a une option ou une alternative. Je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Ces divisions sont mentionnées à nouveau au chapitre 3. Et ceci implique l'hostilité, l'antagonisme, les querelles et des discussions, des disputes, alors que les différentes personnes essaient de mettre en avant leur prédicateur favori. L'apôtre Paul va donner des noms. de tenir tous le même langage. Ceci ne parle pas de tout. Vous n'avez pas besoin de parler le même langage. Dans tous les aspects de la vie, nous avons différentes opinions par rapport à différentes choses. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne tout d'abord l'Évangile, en ce qui concerne Christ, qui sera le sujet de ces versets, nous devons tous tenir le même langage. Nous sommes ses enfants, nous croyons à la croix du calvaire, nous croyons dans les doctrines de la Bible. Et de n'avoir point de division parmi vous, de séparation littéralement. Et les gens l'un contre l'autre, ou froid l'un envers l'autre, dans leur cas, parce qu'ils se sont associés à différents prédicateurs. Pour nous, ça peut être différentes choses, des opinions par rapport à différentes choses qui nous divisent, qui viennent entre nous. Ce peut être l'ethnicité, ou différentes choses qui n'ont aucune place dans l'Église. Aucune division. Mais d'être unis dans une même pensée, en toutes choses. Mais d'être unis dans une même pensée. Ceci est vraiment beau. Dans une même pensée et dans un même sentiment. Quand vous considérez les termes utilisés, vous avez toute la personnalité de l'être humain ici. Vous avez l'esprit, la pensée. Vous avez la faculté de la raison, vous avez le cœur, l'affection, et vous avez la volonté des hommes et des femmes, les trois composants, les trois aspects de votre personnalité ici. Mais d'être unis dans une même pensée, c'est un terme intéressant qui est traduit ici. Certaines personnes traduisent par « pour que vous puissiez être entièrement dans la communion, entièrement joints et réparés ». Et c'est quelque chose qui implique l'amour, l'affection l'un pour l'autre, être joints parfaitement, imbriqués l'un dans l'autre, dans une même pensée. La pensée, c'est le palais de la foi, ceci parle de la foi. Dans une même pensée, il y a là la capacité de la raison et dans un même sentiment. C'est ici comme une sentence d'un juge, qui prend une décision dans ce terme ici, traduit par sentiment, c'est le jugement plutôt, la détermination. Vous pourriez traduire ce terme par les mêmes sentiments, l'unité, la même pensée et le même jugement, la même détermination, la volonté. Cette unité devrait unir toute la personne. Et au verset 11, « Car mes frères, j'ai été informé par ceux de chez Chloé qu'il y a des contestations entre vous. Ceci, ce ne sont pas des rumeurs qui sont rapportées. Les membres de la maison de Chloé, certaines personnes pensent que c'est un endroit, mais les traducteurs ont probablement raison, c'est une personne, un chef de famille, un croyant quelque part. Mais c'est quelque chose de vrai, parce que l'apôtre Paul, on lui a dit ceci pour qu'il puisse corriger l'Église, et celui qui lui a dit n'a pas de problème si son nom est mentionné. Ainsi, ce n'est pas simplement des rumeurs qui sont rapportées. Il y a des contestations, des querelles entre vous. Quelles étaient les querelles au verset 12 ? Je veux dire que parmi vous, chacun d'entre vous, non pas nécessairement littéralement chaque personne de l'assemblée, mais ceci implique la plupart d'entre eux, parce qu'ils utilisent ce terme « chacun ». C'est une faute qui est répandue. Je veux dire que parmi vous, chacun dit « Pour moi, je suis disciple de Paul ». Il se ralliait à différents prédicateurs. L'apôtre Paul, c'est lui que nous devons mettre en avant. D'autres disaient « Apollos ». Apollos était connu pour parler de manière élégante. Il était un bon orateur et vous pouviez l'écouter pendant des heures, je pense. Et il amenait toutes sortes d'arguments, d'illustrations. Et il était juste dans sa doctrine. Mais les gens lui donnaient une autorité particulière, et ceci était faux. Et moi, de Céphas. Pourquoi l'apôtre Pierre était un favori? Oui, il était un témoin de tout le ministère de Christ. Même l'apôtre Paul n'était pas un témoin. Avec toute sa connaissance, il l'a reçu par une révélation particulière. Mais moi, je suis Pierre, parce qu'il a suivi le Seigneur. Il a commencé comme pêcheur humble, et il a prêché la première prédication à la Pentecôte. Quel homme extraordinaire, capable de faire des miracles. Et moi, de Christ. L'opinion de Calvin, c'est que « et moi de Christ », c'était là le groupe qui avait raison. Ils se ralliaient derrière Christ seul. Mais quelle tragédie qu'il y ait un seul groupe dans l'Église qui était de Christ, parce que tous devraient se rallier à Christ. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ceci? Pourquoi est-ce qu'ils se sont divisés en différents groupes et clans? Qu'est-ce qui les a motivés à faire cela? Vous pourriez dire, c'est simplement la chair. L'apôtre Paul dit ceci au chapitre 3. Ceci vient de la chair, c'est comme des enfants à l'ère de jeu, et ils ont différents groupes, et vous devez être dans un groupe ou dans l'autre. Bien sûr, c'est un ensemble d'orgueil d'appartenir à un groupe, et également la crainte ou l'anxiété de vouloir être dans un groupe contre tous les autres, pour nous protéger, etc. Il y a un certain nombre de raisons. Mais la raison qui ressort dans le cas des Corinthiens, ce n'est pas simplement la chair ou un état enfantin, mais c'est ceci, que à Corinthe, comme à Athènes, dans la communauté grecque, là où il y avait l'amour de la philosophie grecque et de la sagesse oratoire, l'évangile de Christ était faible pour eux. Et les gens se moquaient de l'évangile de Christ qui n'était pas respecté, qui n'avait pas de valeur. Et les Corinthiens semblent s'être dit, que pouvons-nous faire pour mettre en avant notre message? Que pouvons-nous faire pour faire face au fait que notre message est méprisé parmi les Grecs? Et la réponse est la suivante. Nous avons besoin de grandes personnalités importantes, des prédicateurs qui ont une personnalité. Comme prédicateurs, nous avons besoin de gens que la population générale peut admirer et contempler comme étant des héros, des gens importants, des gens éduqués, des gens qui ont de la culture ou qui ont la capacité de prêcher d'une manière particulière. Pour cela que certains disaient « Je suis disciple de Paul, il n'est pas le meilleur prédicateur, mais Dieu est avec lui. » Moi, je suis de Céphas parce qu'il était témoin, et moi, je suis d'Apollos parce qu'il parle si bien, etc. C'est là ce qui est derrière ces divisions. Comment savons-nous? Parce que l'apôtre Paul leur donne une réponse assez longue. Ceci promeut la seule puissance qui est la croix de Christ. Les gens disent souvent que, après le verset 13, après son commentaire sur le baptême, au verset 16 plutôt, il ne le mentionne plus après cette question de la division, jusqu'au chapitre 3, verset 3. Quelle longue parenthèse! Certaines personnes ont dit que l'apôtre Paul parle d'autre chose pendant tous ces versets. Il parle d'autre chose, des choses importantes. Et ensuite il revient à son argument. Mais savez-vous, il n'a pas changé de sujet. Il ne fait pas de parenthèse entre le chapitre 1, verset 16 et le chapitre 3, verset 3. Il ne fait pas de parenthèse du tout. Ceci fait partie de l'argumentation, la raison de la division, c'est qu'il sous-estimait la seule puissance et la puissance inhérente de la prédication de la croix. C'est pour cela qu'il se ralliait à différentes personnalités. C'est là ce à quoi il s'attendait. La puissance, le respect, être accepté par le monde. Et ceci se passe également de nos jours de la même manière. Les gens se rallient à un prédicateur en particulier comme un héros. Ils font de cette personne un héros. Aux États-Unis, ils applaudissent même leurs prédicateurs. Vous pouvez regarder des vidéos de certains noms connus. Toutes les 2 minutes, 5 minutes, les gens applaudissent. Et c'est des églises soi-disant réformées. Les applaudissements n'ont aucune place dans une église de Jésus-Christ. C'est inacceptable. Mais ils veulent mettre quelqu'un en avant. C'est là notre héros qui a la puissance. L'apôtre Paul répond, il dit non, parce que ceci ôte l'effet de la croix de Christ. C'est une insulte contre Christ que de substituer la croix. Et ils vont plus loin et ils disent « Oh, ce n'est pas suffisant que de prêcher. Vous devez communiquer avec d'autres méthodes qui sont plus attirantes que la prédication. Vous devez jouer des pièces de théâtre et vous devez donner au monde ce qu'ils veulent pour qu'ils respectent l'Évangile. Vous devez insister sur l'apologétique. L'apologétique a sa place dans l'évangélisation, Mais certains pensent qu'il faut que le message soit 75% apologétique, sinon les gens ne vont pas accepter votre message. Ils n'acceptent pas que la croix de Christ a la puissance dans les mains du Saint-Esprit, au-delà de toutes ces choses humaines qui peuvent être mises en avant. L'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 17, et par la suite. Pendant tous ces chapitres, il ne change pas de sujet, il parle de ceci. Vous avez ces différents groupes parce que vous cherchez une personne clé pour gagner le respect du monde, mais vous regardez au mauvais endroit. C'est la prédication de la croix de Christ qui a la puissance. Et c'est là l'argumentation de l'apôtre Paul. Quelques versets ici que nous allons considérer rapidement. Christ est-il divisé au verset 13 ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? C'est évident que non. Avez-vous été baptisé au nom de Paul ? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Il remercie Dieu. Il croit dans le baptême. Oui, Christ a commandé le baptême. L'apôtre Paul a enseigné le baptême. Mais il remercie Dieu parce que à Corinthe, dans les circonstances de Corinthe, il n'a pas baptisé. D'autres ont baptisé. Et à présent, il regarde en arrière et il dit « Ceci venait du Seigneur parce que je peux voir que si j'avais baptisé, ceci aurait amplifié cet esprit de division. » Au moins, j'ai été baptisé par Paul, dans le nom de Paul. Et je remercie Dieu parce que j'ai échappé à ceci. Dieu a œuvré pour que je ne baptise pas. Je me suis concentré sur la prédication, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. Verset 15, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelque autre personne. Et les gens disent que l'apôtre Paul a un trou de mémoire. Il a baptisé Gaius, Crispus, et soudainement, il se souvient d'avoir baptisé Stéphanas et sa maison également. L'apôtre Paul n'a pas de trou de mémoire. Il a dicté ceci. Si vous dictez, soudainement vous vous rappelez de quelqu'un d'autre. Vous dites ceci à la personne à qui vous dictez. Non, il n'a pas oublié ceci. Certains des anciens commentateurs suggèrent ceci, mais personne ne sait. Il suggère que Stéphanas était le geôlier de Philippe, qui a été baptisé à Philippe, et qui ensuite a déménagé à Corinthe. Et c'est pour cela qu'il le met dans une catégorie à part, non pas parce que l'apôtre Paul a oublié et soudainement il s'en rappelle, mais parce que ces deux personnes qu'il mentionne ont été baptisées à Corinthe, Crispus et Gaius, et l'autre, qui est parmi eux, Stéphanas, a été baptisé ailleurs par l'apôtre Paul. Ainsi, il est rajouté séparément. Il n'y a pas de trou de mémoire pour l'apôtre inspiré. Verset 17, car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il l'a envoyé pour baptiser, oui, mais vous devez continuer la phrase. Mais à Corinthe, c'est pour annoncer l'évangile. C'est là son but principal. Et ensuite, la réponse à cet esprit de division. Et nous voyons la raison pour leur esprit de division. Non avec la sagesse du langage. Tous ceux parmi vous qui veulent Apollos, qui se rallient à Apollos parce qu'il a ses arguments si fins et qu'il peut débattre avec les Grecs, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Seule la prédication de la croix de Christ, de manière persuasive, bien sûr, ceci inclut d'autres choses. Pourquoi vous avez besoin de Christ? Pourquoi est-ce que vous allez être perdu éternellement sans Christ? Et combien il est bon? Et combien c'est merveilleux d'être chrétien. Toutes ces choses font partie de cette prédication, mais la clé, c'est la croix de Christ qui est communiquée par la prédication claire. C'est là la puissance. Quand je dis ceci, nous savons que la puissance vient du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul pointe le doigt sur le sujet de la prédication de la croix de Christ. Et au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Juste un instant sur ceci. Pourquoi est-ce que les gens pensent que la prédication de la croix est une folie? Certains disaient, bien sûr, vous voulez dire que quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui est né dans une maison pauvre et qui avait un métier pauvre dans un endroit peu connu, est le sauveur du monde, ceci est insensé, c'est une folie. Nous nous attendons à quelqu'un de grand, d'important, de connu. C'est pour cela que certaines personnes peuvent penser que c'est une folie, d'autres peuvent dire « un homme qui est mort comme un criminel sur une croix romaine, le sauveur du monde, ils ne comprennent pas ce qu'il faisait, ainsi pour eux c'est une folie. » D'autres, comme ceux qui étaient autour de la croix au moment de sa mort, pourraient dire « mais il n'a pas pu se sauver lui-même de la mort, comment est-ce qu'il peut être le sauveur du monde ?» D'autres disent que sa carrière a fini dans l'humiliation, dans une mort d'humiliation. Comment est-ce que lui peut être le Seigneur, le roi des rois? D'autres attaquent les choses de manière théologique. Ils disent « vous dites que Christ est mort pour tous ceux qui seront sauvés. Il a pris leur condamnation, mais vous ne pouvez pas transférer la culpabilité d'une personne à une autre. Vous ne pouvez pas faire ceci. » Bien sûr, ils ne comprennent pas. Ils pensent « comment est-ce qu'il peut être un sauveur ? Comment est-ce que nous pouvons transférer cette culpabilité de nous à lui ?» D'autres personnes disent « c'est immoral que Dieu condamne un homme innocent à notre place et ils pensent être experts dans les choses morales. » Ainsi, pour différentes raisons, les gens pensent que l'Évangile est une folie. D'autres disent de nos jours « oh, c'était simplement une théorie désespérée, inventée par l'Église primitive pour qu'ils ne soient pas embarrassés par le fait que leur Sauveur a été crucifié. » Ainsi, ils se sont tournés vers cette doctrine. C'est simplement une chose qu'ils ont inventée. Oui, mais c'était également prophétisé pendant des siècles avant cet événement. Et c'est exactement ce que Dieu a fait, ce qu'il a promis, ce qu'il a prophétisé. Dans leur ignorance, ces gens critiques ne savent pas ceci. D'autres disent simplement « c'est une folie que de me demander de me mettre à genoux et de m'humilier devant Dieu, de me confier dans un Sauveur pour le pardon de mes péchés. » Et leur orgueil leur fait voir cette prédication comme étant une folie. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens pensent que la prédication de la croix est une folie. Même certains chrétiens pensent que la prédication est une folie si souvent, et ils disent « oh, de nos jours, où il y a du théâtre, différentes manières d'attirer les gens, des choses visuelles. Vous prêchez Christ simplement dans des paroles. Ceci ne suffit pas. » Et ils méprisent la prédication. Dans leurs églises, il y a peu de prédication. Mais l'apôtre Paul répond ici, dans ce verset 17, « afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. » Au verset 18, « car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » En grec, c'est ceux qui sont en train de périr. Nos traducteurs ont traduit ceux qui périssent, mais c'est ceux qui sont en train de périr, dit l'apôtre Paul. Durant toute leur vie, ils périssent, ils se détériorent, ils sont perdus dans un esprit critique et nous essayons de les gagner, de les persuader. Mais pour nous qui sommes sauvés, et à nouveau, c'est nous qui sommes en train d'être sauvés continuellement. C'est la puissance de Dieu. Il a l'esprit, votre salut, à la conversion et votre sanctification qui continue durant toute votre vie. Et la croix de Christ donne la puissance pour ces deux choses. C'est là le cas. Quand vous êtes sauvé, ceci va dans votre pensée et vous comprenez la mort expiatoire de Christ. Et l'expiation, celui qui prend votre place. Ainsi votre cœur est touché et votre affection, vous êtes touché. Par Christ, par qui tout le monde a été créé, que Christ soit mort pour vous, qu'il souffre à votre place et qu'il prenne votre condamnation éternelle. Vous êtes touché. Et ensuite, par la puissance de l'Esprit, votre volonté est touchée. Et vous vous jetez à genoux devant lui, vous vous donnez à lui. Votre pensée, votre cœur, votre volonté, tout est conquis par l'œuvre de l'Esprit, par la croix de Christ. C'est là qu'est la puissance. Pourquoi est-ce que les prédicateurs, peu souvent, prêchent l'Évangile en persuadant les gens de leur besoin de Christ, de se repentir, de se confier en Christ seul pour porter leurs péchés, pour être leur sauveur? Pourquoi est-ce que l'Évangile est prêché de nos jours si peu? Mais c'est là qu'est la puissance, la prédication de l'Évangile. Et c'est là l'argument de l'apôtre Paul. C'est la puissance de Dieu, à la fin du verset 18. Dans sa substance, c'est le génie même, que parmi les trois membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, trois personnes. Un membre de la Trinité a été désigné, et volontairement il est venu dans ce monde. Il est venu dans une personnalité humaine, et il est devenu notre sauveur. Il a souffert pour nous, il a ouvert le chemin vers le ciel, il a pris la condamnation du péché pour tous ceux qui seront sauvés. La mort expiatoire de Christ, c'est un génie divin, c'est là qu'est la puissance. C'est puissant dans sa substance, c'est puissant dans son effet. Quand les gens sont touchés par ce message, ils sont transformés entièrement et nés de nouveau, et ils deviennent réellement des croyants dans le Seigneur, et ils reçoivent la lumière, la compréhension, un cœur nouveau. Et c'est la puissance de l'amour qui œuvre par l'amour de Christ quand nous venons à lui, nous sommes nous-mêmes remplis d'amour pour lui. C'est puissant dans sa durée. L'Évangile nous sauve pour toujours et l'Évangile est infaillible. Si par l'œuvre de l'Esprit, l'Évangile nous touche, l'Évangile nous sauve et nous sauve pour toujours. Ainsi, le converti authentique n'est jamais perdu. C'est la puissance de Dieu. Et rien ne peut se substituer à cette puissance. L'apôtre Paul, c'est comme s'il disait « Oubliez vos divisions, oubliez vos clans, vos groupes. » La puissance de Dieu est là. Une seule église, d'une seule pensée, un dans la prière et l'Évangile est prêché. Car il est écrit au verset 19 « Je détruirai la sagesse des sages. » Ceci est une citation d'Ésaïe 29. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. De deux manières, l'évangile de Christ ne prend rien de la sagesse humaine. Quand vous entendez l'évangile, l'œuvre de Christ et l'appel de Dieu, ce message ne contient rien de la sagesse humaine. La sagesse humaine ne peut pas contribuer. La sagesse humaine dit que s'il y a un Dieu, la seule manière de le connaître, c'est d'obtenir sa faveur, d'être juste, et ceci est impossible. Mais c'est le salut libre dont vous avez besoin, et seul Christ peut vous donner ce salut. Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et la sagesse des sages sera progressivement détruite. Ceci se passe de deux manières. Alors que les siècles passent, la sagesse humaine, sur certains aspects, les idéologies politiques, certaines opinions, se répandent puis ne sont plus au goût du jour et sont remplacées par d'autres théories humaines. Et constamment, ces choses sont changées. Les choses que les gens croyaient il y a 500 ans ont disparu, même les choses d'il y a 100 ans ou même d'il y a 50 ans. Tous les groupes, les partis politiques, changent et évoluent et mettent de côté des choses, les substituent par d'autres idées nouvelles. J'anéantirai l'intelligence des intelligents, dit le Seigneur. Chaque génération d'intelligents, de sages, à son tour passe. Et on trouve que tout ceci est ridicule. Et à la fin des temps, la sagesse humaine va être détruite. Est-ce que cela signifie toute sagesse humaine? Non. Dieu nous a donné la capacité de raisonner et d'observer les choses et de découvrir les choses, de rechercher. Il y a beaucoup de sagesse humaine qui grandit, qui s'accumule et qui n'est pas mise de côté, que l'on respecte. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances est respectée. Mais dès que la sagesse humaine commence à parler des choses de Dieu et sa nature et comment le trouver, comment vivre et essaye de résoudre des problèmes de comportement. La sagesse humaine échoue. Elle est incapable dans ces domaines-là. C'est là ce que l'apôtre Paul dit ici. La sagesse humaine sera abolie, détruite. L'homme qui essaie de comprendre les origines de la vie, s'il y a un Dieu, les buts de Dieu, il n'est pas capable dans ces choses parce qu'il est plein de préjugés et contre Dieu. Ainsi, ce n'est pas que toute sagesse va être détruite. Mais la sagesse humaine ne nous amène nulle part dans les choses spirituelles. Dieu doit se révéler lui-même. Car il est écrit, verset 19, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Qui signifie probablement je vais démontrer la faiblesse de l'intelligence des hommes en ces choses. » Au verset 20, où est le sage? Où est-ce que sa sagesse l'amène? Où est le scribe? Regardez le monde, l'actualité, et les guerres, et les rumeurs de guerre, les endroits où il y a la famine à cause de la conduite humaine, et les difficultés que l'on ne peut pas résoudre. Dans chaque siècle, chaque année, chaque jour, il y a de grands problèmes internationaux et personne ne peut les résoudre. Où est le sage en tout cela? Où est le scribe? Pour résoudre les problèmes du comportement humain et la relation avec Dieu, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde dans chaque siècle? Et ensuite l'apôtre Paul continue. Mais avec ceci, nous allons conclure. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ou c'est là ce qu'ils disent, la folie de la prédication de la croix, de sauver les croyants. Chers amis, que ceci soit toujours une église qui proclame l'évangile. Ne perdez jamais ceci de vue. Une prédication dédiée à l'évangile, à la persuasion des pécheurs et à la présentation de Christ dans l'évangile. Et c'est là et là seule qu'est la puissance de Dieu. C'est là la réponse de l'apôtre Paul à la cause des clans, des divisions dans l'église de Corinthe. Et nous allons nous en arrêter là ce matin.